Chapitre 3. La retraite de Russie submergea tous les ressentiments particuliers sous un océan de désastres et de misères. Colonels sans régiment, Dubert et Ferraud portaient le fusil dans les rangs du fameux bataillon sacré, formé d'officiers de toutes armes, qui n'avaient plus de troupes à commander. Dans ce bataillon, les colonels tenaient lieu de sergents, les généraux commandaient les compagnies et avaient à leur tête un maréchal de France, prince de l'Empire. Tous étaient munis de fusils ramassés en route et de cartouches dérobées aux morts. Dans la destruction générale des notions de discipline et de devoir qui cimentent compagnies, bataillons, régiments, brigades et divisions d'une armée, cette petite troupe mettait son orgueil à conserver un semblant d'ordre et de formation. Les seuls traînards étaient ceux qui tombaient pour céder au froid leurs âmes épuisées. Ils marchaient sans que leur passage troublât le mortel silence des plaines, baignées de la lumière livide des neiges, sous un ciel de cendres. Des rafales qui couraient sur les champs se jetaient à l'assaut de la sombre colonne, l'enveloppaient d'un tourbillon de grêlons, puis s'apaisaient pour la laisser ramper sur la route tragique, sans le rythme et la cadence du pas militaire. Elle se frayait un rude chemin. Les hommes n'échangeaient paroles ni regards. Des rangs entiers marchaient coude à coude, jour après jour, sans jamais lever les yeux du sol, perdus dans des réflexions désespérantes. Dans les noires forêts muettes, on n'entendait que le craquement des branches surchargées. Souvent, de l'aube au crépuscule, personne n'avait élevé la voix d'un bout à l'autre de la colonne. On eût dit d'une armée macabre de cadavres marchant vers une tombe lointaine. Seule une attaque de Cosaques réveillait dans les yeux un semblant de résolution martiale. Le bataillon faisait face et se déployait ou formait le carré sous le vol incessant des flocons de neige. Une nuée de cavaliers coiffés de toques de fourrure abaissaient leurs longues lances et poussaient des « hurrahs, hurrahs » autour du mur immobile, d'où, avec des détonations assourdies, des centaines de flammes rouges dardaient à travers l'air épaissi de neige. Très vite, les cavaliers s'évanouissaient, comme emportés par la tempête, et, debout sur les bourrasques, seul et immobile, le bataillon sacré écoutait les hurlements du vent, dont les rafales le glaçaient jusqu'au cœur. Alors, avec un ou deux cris de « Vive l'Empereur !», il reprenait sa marche, en laissant derrière lui quelques corps rigides, taches minuscules sur l'immensité blanche des neiges. Bien que marchant souvent dans les rangs, ou combattant côte à côte dans les bois, les deux officiers s'ignoraient, moins par intention hostile que par totale indifférence. Ils n'avaient pas trop de toute leur énergie morale pour résister à l'hostilité terrifiante de la nature et au sentiment écrasant d'un irrémédiable désastre. Jusqu'au bout, ils comptèrent parmi les plus actifs, les moins démoralisés des officiers du bataillon. Leur ardente vitalité leur donnait, aux yeux de leurs camarades, la réputation de deux héros. Et ils n'échangèrent jamais que de rares paroles indifférentes, sauf le jour où, luttant en avant du bataillon contre une harcelante attaque de cavalerie, ils se trouvèrent traqués dans un bois par une petite bande de Cosaques. Une vingtaine de cavaliers velus et couverts de fourrure tournaient autour d'eux et brandissaient leurs lances dans un silence impressionnant. Mais les deux officiers n'entendaient pas poser les armes, et le colonel Ferraud éleva tout à coup une voix rauque et grondante en épaulant son fusil. « Chargez-vous du premier de ces crétins-là, colonel Dubert. Je réglerai l'affaire de son voisin, je tire mieux que vous. » Dubert acquiesça par-dessus son fusil. Leurs épaules s'appuyaient au tronc d'un gros arbre. D'énormes tas de neige les protégeaient contre une attaque de front. Deux coups bien dirigés déchirèrent l'air glacé, et deux Cosaques chancelèrent sur leurs selles. Les autres, jugeant que le jeu ne valait pas la chandelle, se groupèrent autour de leurs camarades blessés et s'enfuirent hors de portée. Les deux officiers purent rejoindre leur bataillon au bivouac nocturne. Pendant l'après-midi, ils s'étaient plus d'une fois appuyés l'un sur l'autre, et vers le soir, le colonel Dubert, dont les longues jambes facilitaient la marche dans la neige molle, avait, d'autorité, pris à Ferraud son fusil pour le porter sur l'épaule, tandis qu'il se servait du sien en guise de canne. Aux confins d'un village à demi enfoui sous la neige, une vieille grange de bois brûlait avec une flamme claire. Le bataillon sacré de squelettes vêtus de haillons se pressait ardemment à l'abri du vent et tendait vers la flamme des centaines de mains gourdes et osseuses. Personne n'avait remarqué l'arrivée des deux officiers. Avant d'entrer dans le cercle de lumière qui jouait sur les visages hâves et les yeux vitreux, le colonel Dubert parla à son tour. « Voici votre fusil, colonel Ferraud. Je marche plus facilement que vous. » Ferraud fit un signe de tête approbateur et se fraya un chemin jusqu'à la chaleur. Pour agir moins brutalement, le colonel Dubert ne mit pas moins d'énergie à se faire une place au premier rang. Ceux qu'il coudoyait accueillirent par un faible vivat le retour des deux indomptables compagnons d'activité et d'endurance. Ces qualités viriles n'avaient peut-être jamais obtenu tribut plus haut que ces pauvres acclamations. Telle est la relation fidèle des phrases échangées pendant la retraite de Russie entre les colonels Dubert et Ferraud. La taciturnité de Ferraud était la marque d'une fureur concentrée. Court, velu, le visage noir de crasse et d'une poussée de rude barbe, une main gelée en écharpe et enveloppée d'ignobles chiffons, il accusait le sort d'une perfidie sans pareille à l'égard de l'homme sublime du destin. Dubert, ses longues moustaches pendantes en glaçons de chaque côté de ses lèvres bleuies et fendues, les paupières enflammées par l'éclat des neiges, portait comme principale pièce de costume une peau de mouton, péniblement arrachée au cadavre d'un traînard gelé dans une charrette abandonnée. Il considérait les événements avec plus de sérénité. Son beau visage, aux traits réguliers, se dissimulait à demi sous une capote de femme en velours noir, par-dessus laquelle il faisait entrer à force un bicorne ramassé sous les roues d'un fourgon militaire qui devait avoir contenu le bagage d'un officier général. Trop courte pour un homme de sa taille, la peau de mouton finissait très haut et laissait voir, à travers les loques de son pantalon, la peau bleuie de ses jambes. Ce spectacle ne provoquait d'ailleurs ni raillerie ni pitié. Nul ne se préoccupait de la mine ou des misères de son voisin. Quant à Dubert, il était endurci à la peine, mais son amour-propre souffrait fort de l'indécence lamentable de son costume. On pourrait croire étourdiment qu'avec une véritable armée de morts semée sur le chemin de la retraite, il ne fut pas difficile de suppléer à de telles défectuosités. Seulement, il n'est pas aussi facile en pratique qu'en théorie d'arracher une paire de bretelles à un cadavre gelé. Il faut s'attarder pendant que les camarades avancent, et le colonel Dubert se serait fait scrupule de rester en arrière. Une fois sorti du rang, il n'était jamais sûr de rejoindre son bataillon, et l'horrible perspective d'un cadavre opposant à sa violence une inflexible rigidité répugnait à la délicatesse de ses sentiments. Par bonheur, un jour qu'il creusait un monticule de neige entre les baraques d'un village, dans l'espoir de trouver une pomme de terre gelée ou quelques débris de légumes à se mettre sous la dent, le colonel Dubert découvrit une paire de ces nattes dont les paysans russes garnissent les côtés de leurs charrettes. Débarrassé de la neige gelée qui les recouvrait, plié autour de son élégante personne et fixé autour de sa taille, elles formèrent une sorte de jupe raide en forme de cloche qui donna au colonel Dubert un aspect parfaitement décent, mais attira encore plus l'attention sur sa personne. Ainsi accoutré, il acheva la retraite, sans jamais douter de son salut personnel, mais avec un cœur assailli de crainte. La belle foi de sa jeunesse était éteinte. Lorsqu'une route de gloire menait à des passages aussi imprévus, on pouvait se demander, et il aimait à réfléchir, si le guide était tout à fait digne de confiance. C'était là, chez lui, tristesse patriotique, mêlée aussi de quelques soucis personnels, et tout à fait différente de l'indignation féroce contre les hommes et les choses que nourrissait le colonel Ferraud. Dans la petite ville d'Allemagne, où il reprit des forces pendant 3 semaines, le colonel Dubert fut surpris de découvrir en lui un désir de repos. Sa vigueur recouvrée était étrangement pacifique dans ses aspirations. Il méditait en silence sur ce bizarre changement d'humeur. Maints de ses camarades éprouvèrent probablement le même sentiment. Mais ce n'était pas le moment d'en parler. Dans une de ses lettres à sa sœur, Dubert écrivait « La réalisation de tes plans pour me faire épouser la charmante voisine que tu as dénichée dans ton voisinage paraît plus que jamais douteuse, ma chère Léonie. La paix n'est pas encore là. L'Europe a besoin d'une nouvelle leçon. Ce sera pour nous une rude tâche, mais nous en viendrons à bout, car l'empereur est invincible. » C'est en ces termes que, de Poméranie, le colonel d'Hubert écrivait à sa sœur Léonie, établie dans le midi de la France. Jusque-là, ses sentiments n'auraient pas été désavoués par le colonel Ferraud, qui n'écrivait à personne, dont le père avait été un forgeron illettré, qui n'avait ni frère ni sœur, et que nul ne souhaitait ardemment unir pour la vie à une charmante jeune fille. Mais la lettre du colonel d'Hubert comportait aussi quelques généralités philosophiques touchant l'incertitude de tous les espoirs personnels quand ils sont exclusivement liés à la prestigieuse fortune d'un homme incomparablement grand à coup sûr, mais qui reste homme dans sa grandeur. Cette restriction eût semblé au colonel Ferraud une affreuse hérésie, et il aurait tenu pour haute trahison l'expression prudente de pressentiments mélancoliques sur l'avenir des opérations militaires. Au contraire, Léonie, la sœur du colonel d'Hubert, en accueillit la lecture avec une satisfaction profonde et se dit, en pliant pensivement sa lettre, qu'Armand allait finir par devenir raisonnable. Depuis son mariage dans une famille du Midi, elle avait acquis une foi ardente dans le retour du souverain légitime. Pleine d'anxieux espoirs, elle priait matin et soir et faisait brûler des cierges dans les églises pour le salut et la prospérité de son frère. Elle eut tout lieu de croire que ses prières avaient été entendues. Le colonel d'Hubert passa par Lutzen, Bautzen et Leipzig sans une égratignure et y acquit une réputation nouvelle. Adaptant sa conduite aux nécessités de cette période désespérée, il n'avait jamais soufflé mot à quiconque de ses appréhensions. Il les dissimulait sous la courtoisie enjouée d'un caractère si aimable que ses interlocuteurs étaient tentés de se demander si le colonel d'Hubert saisissait bien toute la portée des désastres. Ses regards, pas plus que son attitude, ne témoignaient d'aucun trouble. La calme aménité de ses yeux bleus déconcertait tous les mécontents et faisait hésiter le désespoir même. Ce calme fut remarqué avec faveur par l'empereur en personne, car le colonel d'Hubert, maintenant attaché à la personne du major général, eut plusieurs fois l'honneur d'attirer le regard impérial. Mais il exaspérait la nature impétueuse du colonel Ferraud. Passant à Magdebourg pour affaire de service, ce dernier se permit, en dînant mélancoliquement chez le commandant de place, de dire de son adversaire « Cet homme-là n'a jamais aimé l'empereur ». Et cette déclaration fut accueillie dans un profond silence par les autres convives. Troublé dans sa conscience par l'atrocité d'une telle accusation, le colonel Ferraud éprouva le besoin de l'étayer d'un argument solide. « Je puis bien le connaître, » cria-t-il en jurant. « On étudie son adversaire. Je l'ai rencontré une demi-douzaine de fois sur le terrain, comme toute l'armée le sait. Que demandez-vous de plus ? Si cela ne suffit pas au dernier des imbéciles pour juger son homme, je veux que le diable m'emporte. » Et il lançait autour de la table un regard têtu et farouche. Plus tard, à Paris, où il était fort occupé à réorganiser son régiment, Ferraud apprit que le colonel d'Hubert venait d'être nommé général. Fixant sur son informateur un regard incrédule, il croisa les bras et marmonna en tournant le dos « Rien ne me surprend de la part de cet homme. » Et il ajouta à haute voix, par-dessus son épaule, « Vous m'obligeriez fort en disant au général d'Hubert, à la prochaine occasion, que cet avancement le sauve, pour un temps, d'une belle rencontre. Je n'attendais que son arrivée. » L'autre officier se récria, « Pouvez-vous y songer, mon colonel, à une époque où toutes les vies devraient être consacrées à la gloire et au salut de la France ?» Mais la déception des revers militaires avait aigri le caractère du colonel Ferraud. Comme bien d'autres, le malheur le rendait méchant. Je ne puis considérer que l'existence du général d'Hubert ait rien à voir avec la grandeur ou le salut de la France, lança-t-il sèchement. Vous n'allez pas prétendre le connaître mieux que moi, peut-être, qu'il ait rencontré une demi-douzaine de fois sur le terrain. Son jeune interlocuteur fut réduit au silence. Ferraud arpentait rageusement la pièce. « Ce n'est pas le moment de mâcher ses paroles, » dit-il. « Je ne puis croire que cet homme-là ait jamais aimé l'empereur. » Il a ramassé ses étoiles sous les bottes du maréchal Berthier. « Parfait, je gagnerai les miennes d'autre façon et nous réglerons une affaire qui a trop longtemps traîné. » Indirectement informé de cette attitude, le général d'Hubert fit un geste d'ennui, comme pour repousser un importun. Il était sollicité par des soucis plus graves. Il n'avait pas eu le temps d'aller voir sa famille. Sa sœur, dont les espoirs royalistes prenaient de jour en jour plus de force, regrettait un peu, malgré sa fierté, un avancement récent où elle voyait une marque évidente de la faveur de l'usurpateur qui pourrait par la suite nuire à la carrière de son frère. D'Hubert lui répondit qu'un ennemi irréconciliable pouvait seul attribuer sa promotion à la faveur, et quant à sa carrière, il ne regardait pas plus loin dans l'avenir que la prochaine bataille. Commençant la campagne de France dans cette disposition chagrine, le général d'Hubert fut blessé au second jour de la bataille de Laon. Comme on l'emportait, il apprit que le colonel Ferrault, promu général à l'instant, venait d'être envoyé pour le remplacer à la tête de sa brigade. Il se laissa aller à maudire sa malchance, sans voir du premier coup d'œil tous les avantages d'une mauvaise blessure. C'est pourtant par cette héroïque méthode que la Providence assurait sa fortune. En gagnant lentement, avec un vieux domestique de confiance, la maison de sa sœur, le général d'Hubert échappait au contact humiliant et aux perplexités de conduite qui assaillirent les serviteurs de l'Empire au jour de sa chute. Couché sur son lit, avec les fenêtres de sa chambre larges ouvertes au soleil de Provence, il comprit l'évidente faveur conférée par ce fragment déchiqueté d'obus prussien qui, en tuant son cheval et en déchirant sa cuisse, lui avait épargné un conflit actif de conscience. Après 14 années passées en selle et sabre au clair, et avec le sentiment du devoir accompli jusqu'au dernier jour, le général d'Hubert trouva dans la résignation une vertu facile. Sa sœur était ravie de sa sagesse. « Je me remets entièrement entre tes mains, ma chère Léonie, » lui avait-il dit. Il était encore couché lorsque, grâce au crédit de la belle famille de sa sœur, il reçut du gouvernement royal non seulement la confirmation de son grade, mais l'assurance de son maintien en activité. À cette faveur s'ajoutait l'octroi d'un congé de convalescence illimité. L'opinion défavorable, nourrie sur son compte par les cercles bonapartistes, ne reposait sur rien de plus solide que les affirmations sans fondement du général Ferrault, et fut pourtant cause du maintien de d'Hubert sur la liste d'activité. Quant au général Ferrault, son grade lui fut également confirmé. C'est plus qu'il n'osait espérer, mais le maréchal Soult, alors ministre de la guerre de la Restauration, tenait en faveur les officiers qui avaient servi en Espagne. Seulement, la protection même du maréchal ne put le faire maintenir en activité. Il resta irréconciliable, oisif, sinistre. Il cherchait dans des restaurants obscurs la société d'autres demi-soldes qui gardaient sur leur poitrine de vieilles cocardes tricolores ternies mais glorieuses et boutonnaient avec des boutons aux aigles interdits leurs uniformes fripés en se déclarant trop pauvres pour supporter les frais du changement imposé. Le triomphal retour de l'île d'Elbe, fait historique aussi merveilleux et aussi incroyable que les exploits de quelques demi-dieux de la mythologie, trouva le général d'Hubert toujours hors d'état de monter à cheval. Il ne marchait encore qu'avec difficulté. Ses incapacités, que Madame Léonie tenait pour providentielles, l'aidèrent à retenir son frère loin de tout. Pourtant, elle remarqua avec terreur que son état d'esprit à l'époque était loin d'être satisfaisant. Cet officier général, encore menacé de la perte d'un membre, fut trouvé un soir dans les écuries du château par un domestique qui, voyant une lumière, avait semé l'alarme. Sa béquille jetée dans la litière d'un box, d'Hubert sautillait sur une jambe autour d'un cheval apeuré qu'il s'efforçait de seller. Tels étaient les effets du charme impérial sur un tempérament calme et un esprit pondéré. En proie, sous la lueur des lanternes, aux pleurs, aux prières, aux indignations, aux remontrances et aux reproches de sa famille, il se tira d'un pas difficile en s'évanouissant dans les bras de ses proches et fut emporté dans son lit. Il n'en sortit pas avant que le second règne de Napoléon, les 100 jours d'agitation fiévreuse et d'efforts suprêmes, eussent passé comme un rêve terrifiant. La tragique année 1815, commencée dans le trouble et l'inquiétude de conscience, se terminait en proscription vengeresse. Comment le général Ferraud échappa aux griffes de la commission spéciale et au suprême office du peloton d'exécution, il ne le sut jamais lui-même. Il le dut en partie au rôle effacé qui lui avait été assigné pendant les 100 jours. L'empereur ne lui donna pas de commandement actif, mais l'employa au dépôt de cavalerie de Paris, à remonter et à expédier vivement au front les troupiers exercés. Considérant sa tâche comme indigne de ses talents, il s'en acquitta sans zèle excessif. Mais ce qui contribua surtout à le sauver des excès de la réaction royaliste, ce fut l'intervention du général d'Hubert. Encore en congé de convalescence, bien qu'en état de voyager, ce dernier avait été dépêché par sa sœur à Paris pour se présenter à son souverain légitime. Comme personne ne pouvait avoir eu vent dans la capitale de l'épisode de l'écurie, il fut reçu avec honneur. Militaire au fond de l'âme, la perspective de s'élever dans sa carrière le consolait de se trouver en butte à la malveillance des bonapartistes qui le poursuivaient avec une inexplicable insistance. Toute la rancœur de ce parti aigri et persécuté désignait en lui l'homme qui n'avait jamais aimé l'empereur, une sorte de monstre pire que le dernier des traîtres. Le général d'Hubert haussait les épaules sans colère devant cette féroce calomnie. Repoussé par ses anciens amis et fort méfiant des avances de la société royaliste, le jeune et beau général, il avait 40 ans à peine, adopta une attitude de froide et cérémonieuse courtoisie que le moindre soupçon d'hostilité transformait en une hauteur sévère. Ainsi armé, le général d'Hubert vaqua à ses affaires, éprouvant en secret ce bonheur particulier qui soulève les cœurs très amoureux. La charmante fille, découverte par sa sœur, était entrée en scène. Elle avait conquis, comme une jeune fille conquiert un homme de 40 ans en se contentant de paraître. Il devait se marier dès que le général d'Hubert aurait obtenu sa nomination à un poste promis. Un soir, à la terrasse du café Tortoni, d'Hubert apprit par la conversation de 2 étrangers assis à une table voisine que le général Ferraud, compris dans la fournée d'officiers supérieurs arrêtés après le second retour du roi, était en danger de passer devant la commission spéciale. Comme la plupart des amoureux dans l'attente, d'Hubert passait tous ses moments perdus en avance d'un jour sur la réalité, et dans un état d'hallucination éthérée, et il ne fallait rien moins que le nom de son ancien adversaire lancé à voix haute pour arracher le plus jeune des généraux de Napoléon à la contemplation mentale de sa fiancée. Il jeta les yeux autour de lui. Les étrangers portaient des effets civils. Maigres et hâlés, renversés sur leurs chaises, il regardait les gens avec une hauteur morose et méfiante, par-dessous leurs chapeaux tirés bas sur les yeux. Il n'était pas difficile de reconnaître en eux 2 officiers de la vieille garde, démissionnaires par force. Comme la bravade ou l'insouciance leur faisait élever la voix, le général d'Hubert, qui ne voyait pas de raison de changer de place, entendit toute leur conversation. Ils ne paraissaient pas être des amis personnels du général Ferraud et ne prononçaient son nom que parmi d'autres. Les tendres anticipations de bonheur domestique que le général d'Hubert parait de grâce féminine furent soudain traversées par le regret de son passé guerrier, de ce tracas d'armes prolongé et grisant, unique dans la grandeur de sa gloire et de ses désastres, œuvre prodigieuse et propriété particulière de sa génération. Il se sentit une tendresse irraisonnée pour son éternel adversaire et chérit dans son cœur l'absurdité meurtrière que leur discorde avait imposé à sa vie. C'était comme une pincée d'épices dans un plat chaud dont il évoquait le parfum avec une mélancolie soudaine. Il ne retrouverait jamais tout cela. C'était fini. Je crois que c'est d'être resté tout de son long dans le jardin qu'il avait si fort exaspéré contre moi, songeait-il avec indulgence. Les 2 étrangers de la table voisine s'étaient tus, après avoir pour la 3e fois prononcé le nom de Ferraud. Tout à coup, le plus âgé des 2, reprenant la parole avec un accent d'amertume, affirma que le compte du général était réglé. Et pourquoi? Simplement parce qu'il n'était pas un de ces grands personnages qui n'aimaient qu'eux-mêmes. Les royalistes savaient bien qu'il n'y avait rien à en tirer. Il aimait trop l'autre. L'autre, c'était l'homme de Sainte-Hélène. Les 2 officiers hochèrent la tête et trinquèrent avant de boire à un impossible retour. Alors celui qui venait déjà de parler ajouta avec un rire sardonique « Son adversaire s'est montré plus habile. »« Quel adversaire ?» demanda le plus jeune d'un air intrigué. « Vous ne savez pas ? Ils étaient hussards tous les deux. À chacune de leurs promotions, ils se sont battus. Vous n'avez pas entendu parler de ce duel, poursuivi depuis 1801 ?» L'autre connaissait naturellement l'histoire et comprenait maintenant l'allusion. Le général baron d'Hubert allait pouvoir vivre en paix de la faveur de son gros roi. « Grand bien lui fasse !» grommela le vieux. « C'étaient deux braves. Je ne connais pas ce d'Hubert, une espèce de bel intrigant, m'a-t-on dit. Mais je n'ai aucune peine à croire ce que Ferraud dit de lui. Il n'a jamais aimé l'empereur. » Ils se levèrent et partirent. Le général d'Hubert éprouva l'horreur d'un somnambule qui sort d'un rêve de délicieuse activité pour se trouver au milieu d'une fondrière. Un dégoût profond du terrain sur lequel il marchait le submergea. Une image charmante fut même balayée de sa vue par ce flot de détresse morale. Tout ce qu'il avait été ou souhaitait devenir aurait un goût amer d'ignominie s'il ne pouvait sauver le général Ferraud du sort qui menaçait tant de braves. Sous l'impulsion de ce besoin presque morbide d'assurer le salut de son adversaire, d'Hubert travailla si bien des pieds et des mains qu'en moins de 24 heures, il avait trouvé le moyen d'obtenir une audience particulière du ministre de la police. Le général baron d'Hubert fut introduit brusquement et sans préliminaire dans un cabinet semé de chaises et de tables. Derrière un bureau, entre deux faisceaux de bougies brûlant dans des candélabres, il aperçut dans la pénombre un personnage revêtu d'un uniforme somptueux et occupé à faire des mines devant un grand miroir. Le vieux conventionnel Fouché, sénateur de l'Empire, traître à tous les hommes, à tous les principes, à tous les mobiles de la conduite humaine, duc d'Otrante et artisan diabolique de la Seconde Restauration, essayait un costume de cour sous lequel sa jeune et charmante fiancée avait manifesté l'intention de faire peindre son portrait sur porcelaine. C'était un caprice, une fantaisie exquise, à quoi le premier ministre de la police de la Seconde Restauration était désireux de complaire. Car cet homme, que son astuce fit souvent comparer au renard, mais dont l'épithète de lâche chacal suffit seul à symboliser la morale, était autant que le général d'Hubert, possédé par l'amour. Vexé de se voir ainsi trahi par la balourdise d'un domestique, il surmonta sa petite gêne avec l'impudence caractéristique qu'il avait toujours si bien servi dans les intrigues sans fin de son ambitieuse carrière. Sans bouger d'un pouce, avançant une jambe gainée de soie et la tête légèrement tournée sur l'épaule gauche, il dit d'un ton calme « Par ici, général. Voulez-vous approcher ? Eh bien, je suis toute attention. » Tandis que d'Hubert, mal à l'aise comme s'il eût exposé une de ses petites faiblesses, présentait aussi brièvement que possible sa requête, le duc d'Otrante continuait à examiner le tour de son col, à lisser ses revers, à tourner la tête pour jeter un coup d'œil sur les basques brodées d'or de son frac. Son visage immobile, ses yeux attentifs, n'auraient pas exprimé un intérêt plus marqué s'il avait été seul. Soustraire aux opérations de la commission spéciale un certain Ferraud, Gabriel Florian, général de brigade de la promotion 1814, répéta-t-il avec un léger accent de surprise. Puis, tournant le dos au miroir, « Et pourquoi celui-là, précisément ?»« Je suis surpris que Votre Excellence, si compétente dans l'évaluation des hommes de son temps, ait jugé nécessaire de porter son nom sur la liste. » Un bonapartiste enragé, comme le dernier grenadier et le dernier troupier de l'armée, ainsi que le sait Votre Excellence. Et l'individualité du général Ferraud ne peut avoir plus de poids que celle d'un grenadier quelconque. C'est un homme sans portée mentale, sans aucune capacité. Il est inconcevable qu'il ait jamais pu avoir la moindre influence. Il a la langue bien pendue, au moins, déclara Fouché. Il est bavard, je le concède, mais pas dangereux. Je ne discuterai pas avec vous. Je ne sais à peu près rien de lui. C'est à peine si je connais son nom. Pourtant, Votre Excellence doit présider la commission chargée par le roi de désigner les inculpés, fit d'Hubert avec une emphase qui n'échappa pas aux oreilles du ministre. « Oui, général, » fit-il, en se dirigeant vers la partie sombre de la vaste pièce, et en se jetant dans un grand fauteuil, qui l'enfouit tout entier, et ne laissa voir que la lueur douce des broderies d'or et la tache pâle de son visage. « Oui, général, asseyez-vous là. » Le général d'Hubert s'assit. « Oui, général, » reprit le maître dans l'art de l'intrigue et des trahisons, comme si elle lui fût par moments devenue intolérable, se soulageait par des explosions de cynique franchise. « J'ai hâté la formation de ce tribunal en en prenant la présidence. Et savez-vous pourquoi ? Uniquement par crainte, si je ne la prenais pas tout de suite en main, de trouver mon propre nom en tête de la liste. Voilà les temps où nous vivons. Mais je suis encore ministre du roi, et je vous demande franchement pourquoi vous souhaitez de me voir rayer de la liste le nom de cet obscur féro. Vous vous étonnez qu'il y ait été inscrit. Est-il possible que vous connaissiez si mal les hommes ? Mon cher général, à la première séance de la commission, les noms sont tombés sur nous comme la pluie sur le toit des Tuileries. Des noms, nous en avions des milliers au choix. Comment savez-vous si le nom de ce féro, dont la vie ou la mort importe si peu à la France, n'en écarte pas un autre ? La voix se tut. Hubert restait immobile, sombre et silencieux. Son sabre seul était animé d'un léger tremblement. La voix reprit, du fauteuil, « Et nous devons nous efforcer de satisfaire aux exigences des souverains alliés encore. Pas plus tard qu'hier, le prince de Talleyrand m'avertissait que Nesselrode l'avait officiellement informé du mécontentement de Sa Majesté l'Empereur Alexandre devant le petit nombre d'exemples que le gouvernement royal se propose de faire, surtout parmi les militaires. Je vous dis cela en confidence. » Ma parole gronda entre ses dents le général d'Hubert. Si votre Excellence daigne me faire encore des confidences de ce genre, je ne sais ce que je ferai. Il y a de quoi briser son épée sur son genou et en jeter les morceaux. Quel gouvernement croyez-vous donc servir ? Interrompit sèchement le ministre. Après une brève hésitation, la voix abattue du général d'Hubert répondit : Le gouvernement de la France. C'est une façon de payer de mots votre conscience, général. La vérité, c'est que vous servez un gouvernement d'anciens exilés, d'hommes qui ont vécu 20 ans sans patrie, d'hommes aussi qui viennent de subir une terreur affreuse et fort humiliante. Ne vous faites donc pas d'illusions à ce sujet. Le duc d'Otrante se tut. Il était soulagé et avait atteint son but, en blessant un peu l'amour-propre de l'homme qu'il avait malencontreusement trouvé en train de faire des pauses devant un miroir dans son costume de cour brodé d'or. Mais ces militaires étaient des têtes chaudes. Il songea qu'il serait fâcheux qu'un officier général de bonne disposition, reçu en audience sur la recommandation d'un des princes, fît un affreux scandale au sortir d'une entrevue particulière avec le ministre. D'un ton changé, il alla droit au fait et s'enquit. « Un de vos parents, ce féro ? » ?»«
Non, pas du tout. »
« Un ami intime ?»« Intime, oui. Il y a entre nous un lien intime. » qui m'impose comme un point d'honneur de tenter. » Sans écouter la fin de la phrase, le ministre tira une sonnette. Quand le valet fut parti, après avoir apporté sur le bureau une paire de lourds candélabres d'argent, le duc d'Otrante se leva, la poitrine ruisselante d'or sous l'éclat des flambeaux, et sortant un papier d'un tiroir, le tint ostensiblement à la main, en disant avec une douceur persuasive, « Ne parlez plus de briser votre épée sur votre genou, général. » Vous pourriez n'en pas trouver d'autres. L'empereur ne reviendra plus cette fois-ci. Diable d'homme. Il y a un moment, ici à Paris, où il m'a effrayé. On aurait dit qu'il était prêt à tout recommencer. Heureusement, les choses ne recommencent jamais. Ne songez pas à briser votre épée, général. Le général d'Hubert, le visage baissé, fit de la main un geste désolé de renoncement. Le ministre de la police détourna les yeux et parcourut délibérément le papier qu'il n'avait pas cessé de tenir. On n'a désigné que 20 officiers généraux pour faire un exemple. 20, un nombre rond. Et voyons, Féro, ah, le voici, Gabriel Florian. Parfaitement. Voilà votre homme. Eh bien, il n'y aura que 19 exemples. Le général d'Hubert se redressa, avec le sentiment de sortir d'une maladie épuisante. Je prierai, votre Excellence, de garder le plus profond secret sur mon intervention. J'attache la plus grande importance à ce qu'ils n'apprennent jamais Qui pourrait donc l'informer? Je voudrais le savoir, dit Fouché, en levant un regard curieux sur le visage figé et immobile de Dubert. Prenez une de ces plumes et passez-la vous-même sur le nom. Cette liste est unique. Si vous avez soin de prendre assez d'encre, personne ne pourra lire le nom qui a été biffé. Mais par exemple, je ne suis pas responsable de ce que Clark fera de lui. S'il continue à être enragé, il recevra du ministre de la guerre l'ordre d'aller résider dans une ville de province sous la surveillance de la police. Quelques jours plus tard, le général Dubert disait à sa sœur, après les premières expansions du retour, « Ah, ma chère Léonie, il me semblait que je ne pourrais jamais quitter Paris assez vite. » Effet de l'amour, suggéra-t-elle avec un sourire malicieux, et de l'horreur, ajouta Dubert avec une profonde gravité. J'ai failli mourir là-bas, mourir de nausée. Son visage se contractait de dégoût, et sous le regard attentif de sa sœur, il poursuivit : J'ai dû voir Fouché, j'ai obtenu une audience, et j'ai été dans son cabinet. D'avoir eu le malheur de respirer dans la même pièce que cet homme, on conserve un sentiment de dignité diminuée, un sentiment inquiet de n'être pas, en somme, tout à fait aussi propre qu'on le croyait. Ah, tu ne peux pas comprendre. Elle hocha vivement la tête à plusieurs reprises. Elle comprenait parfaitement, au contraire. Elle connaissait son frère à fond et l'aimait tel qu'il était. Au surplus, le mépris et le dégoût de l'humanité s'attachaient au Jacobin Fouché, qui, exploitant au mieux de sa fortune toutes les faiblesses, toutes les vertus, toutes les illusions généreuses des hommes de sa génération, en fit éternellement des dupes, et mourut obscurément duc d'Otrante. « Mon pauvre Armand, fit-elle avec compassion, que pouvais-tu demander à un homme pareil ?»« Rien moins qu'une vie, répondit Dubert, et je l'ai obtenue. Il le fallait, mais il me semble que je ne pourrai jamais pardonner cette épreuve à l'homme que j'ai voulu sauver. » Le général Ferrault, parfaitement incapable de comprendre ce qui lui arrivait, c'est le cas de la plupart d'entre nous, reçut du ministre de la guerre l'ordre de se rendre sans délai dans une petite ville du centre de la France. Il donna libre cours à ses sentiments, avec roulement d'yeux furieux et sauvage grincement de dents. La cessation de l'état de guerre, seule condition d'existence qu'il eût encore connue, et l'affreuse perspective d'un monde en paix l'épouvantaient. Il gagna sa petite ville avec la conviction arrêtée qu'un tel état de choses ne pouvait durer. Il apprit, en arrivant dans sa nouvelle résidence, sa radiation des cadres de l'armée, et que l'octroi de sa pension, calculé sur l'échelle du grade de colonel, dépendrait de la correction de sa conduite et des rapports favorables de la police. Ne plus faire partie de l'armée. Il se sentait singulièrement étranger à la terre, comme un esprit désincarné. Impossible de vivre dans de telles conditions. Pour commencer, il réagit par pure incrédulité. Cela ne pouvait pas être. Il attendait tonnerre, tremblement de terre et cataclysme naturel, et ne vit rien venir. Le manteau de plomb d'une irrémédiable oisiveté tomba sur le général Ferrault, qui, ne trouvant en lui aucune ressource, sombra dans un état d'hébétude terrifiante. Il parcourait les rues de la petite ville, en fixant devant lui des yeux sans éclat, et ne voyait pas les chapeaux levés sur son passage. Les gens se poussaient du coude et chuchotaient « Regardez le pauvre général Ferrault. Il a le cœur brisé. Voyez comme il aimait l'empereur. » Les autres ruines de la tempête napoléonienne se groupaient avec un respect infini autour du général Ferrault. Il se croyait lui-même le cœur broyé par le chagrin. Il éprouvait, en succession rapide, des besoins de pleurer, de hurler, de se mordre les poings jusqu'au sang, de passer des journées entières sur son lit, la tête sous l'oreiller. À vrai dire, cela n'était que de l'ennui. L'angoisse d'une immense, d'une indescriptible, d'une inconcevable nostalgie. Son incapacité à comprendre la nature désespérée et définitive de son mal le sauva du suicide. L'idée ne l'en effleura jamais. Il perdit seulement l'appétit, et la difficulté qu'il éprouvait à exprimer son accablement, les plus furieux jurons n'y réussissaient pas, le réduisit au silence, sorte de mort pour un tempérament méridional. Grande fut donc la sensation parmi les anciens militaires, habitué d'un petit café infesté de mouches, quand, par un lourd après-midi, ce pauvre général Ferraud lâcha tout à coup une bordée de jurons formidables. Tranquillement assis dans un coin privilégié, il parcourait les gazettes de Paris avec l'intérêt qu'un condamné pourrait apporter la veille de son exécution aux nouvelles du jour. Un groupe de figures bronzées et martiales, dont l'une n'avait qu'un œil et un autre montrait un nez à demi gelé en Russie, l'entourèrent avec sollicitude. « Qu'y a-t-il, général ?» Très droit, le général Ferraud tenait la feuille pliée à bout de bras pour en mieux distinguer les petits caractères. Il lut et relut la nouvelle qui avait déterminé ce que l'on pourrait appeler sa résurrection. Nous apprenons que le général Dubert, actuellement en congé de convalescence dans le Midi, va être appelé au commandement de la 5e brigade de cavalerie à... Il laissa tomber le journal avec accablement. Appelé au commandement, puis se frappant violemment le front, je l'avais presque oublié, grommela-t-il avec remords. Un vétéran à la large poitrine cria à travers le café, « Encore une nouvelle infamie du gouvernement, mon général ?»« Les infamies de ces coquins ne se comptent plus, » tonna Ferraud. « Une de plus ou de moins ?» Il baissa la voix. « Il y en a au moins une à laquelle je mettrai bon ordre. » Et regardant tout autour de lui, « Voilà un officier d'état-major, un de ces mignons frisés et pommadés des maréchaux qui ont vendu leur père pour une poignée d'or anglais. Il s'apercevra bientôt que je vis encore, » déclara-t-il d'un ton dogmatique. « C'est une affaire particulière, une vieille affaire d'honneur. Bah, notre honneur ne compte pas. On nous parque ici, l'oreille fendue, comme un troupeau de chevaux réformés, bon pour l'écarisseur. Mais ce serait une façon de frapper un coup pour l'empereur. Messieurs, j'aurais besoin de deux d'entre vous. » Tous s'offrirent. Profondément touché de cette démonstration, le général Ferraud choisit avec émotion le cuirassier borgne et l'officier de chasseur à cheval qui avait laissé le bout de son nez en Russie. Il s'excusa auprès des autres. « C'est une affaire de cavalerie, vous comprenez ?» Un tumulte d'acclamations lui répondit. « Parfaitement, mon général, c'est juste. Parbleu, c'est connu. » Tout le monde était satisfait. Les trois hommes quittèrent le café, salués par des souhaits de bonne chance. Dans la rue, ils se prirent le bras, le général au milieu, les trois chapeaux roussis portés en bataille, avec une obliquité sinistre, barraient presque entièrement la rue étroite. Surchauffée, la petite ville aux murs gris et aux toits rouges dormait son sommeil d'après-midi provincial sous le ciel bleu. Les coups sonores et réguliers d'un tonnelier qui cerclait une futaille se répercutaient entre les maisons. Le général retira un peu son pied gauche dans l'ombre du mur. Ce maudit hiver de 1813 m'est rentré jusqu'au fond des eaux. N'importe, on prendra des pistolets, voilà tout. Un peu de lombago. Des pistolets, oui. Cela fera du beau gibier pour ma carnassière. J'ai l'œil aussi vif que jamais. J'aurais voulu que vous me vissiez, en Russie, décrocher au vol des cosaques avec un vieux fusil d'infanterie. J'ai des dons naturels de tireur. Le général pérorait, redressant sa tête aux yeux de chouette et au nez d'oiseau de proie. Simple combattant toute sa vie, cavalier, sabreur, il concevait la guerre avec la plus grande simplicité, comme une foule de combats singuliers, une sorte de duel collectif. Et voilà qu'il retrouvait sa propre guerre, il revivait. L'ombre de la paix s'écartait de lui comme une ombre de mort. C'était la résurrection merveilleuse du nommé Ferraud, Gabriel Florian, engagé volontaire de 1793, général de 1814, enterré sans cérémonie par un ordre de service du ministère de la guerre de la Seconde Restauration.